Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série de l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 24 et le titre pour ce matin sera « La nécessité et l'effet de l'union ». Il est dit dans Saint Matthieu, au chapitre 18, verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Chers amis, souvent, ce verset très important est survolé avec pas toujours l'importance que ça devrait être d'essayer de comprendre absolument ce que ce verset essaye de nous dire. Je me suis déjà servi de ce texte pour les réunions de prière. Et maintenant, je désire entrer davantage dans l'esprit et dans la signification de ces paroles. Le dessein évident du Seigneur était de nous enseigner l'importance et l'influence de l'union dans la prière et dans l'effort pour développer la piété. Il établit le cas le plus saillant possible en prenant le nombre 2. Ce nombre 2 comme le plus petit des nombres qui permettent un accord. Et il dit ce verset, « Là où deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera donnée par mon Père qui est aux cieux. » Le point essentiel pour lui, c'est le fait de l'accord, d'être d'accord. Et en mentionnant le nombre 2, il semble avoir eu purement en vue d'encourager le plus petit nombre possible de personnes pouvant vraiment, de tout leur cœur et de tout leur esprit, s'accorder. Mais que devons-nous entendre par ces paroles « s'accorder dans les choses à demander » Je répondrai à cette question sous les deux titres suivants. Premièrement, nous devons être d'accord quand nous prions, ça va sans dire. Deuxièmement, nous devons aussi être d'accord dans toutes les choses essentielles pour pouvoir obtenir la bénédiction recherchée. Donc, premièrement, nous avons l'accord dans la prière. Pour nous approprier la personne et surtout la promesse, la personne et la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous accorder dans la prière. Nous devons nous accorder dans nos désirs se portant sur la chose à obtenir par la prière. Il est nécessaire que nous désirions réellement notre objet et que nous nous accordions dans ces désirs. Très souvent, des personnes prient en parole pour une même chose, tandis qu'elles ne s'accordent nullement, avez-vous entendu, nullement, quant à leur désir réel. Je dis encore plus, quelques-unes désirent peut-être dans leur cœur même le contraire de ce qu'elles demandent. On demande de prier pour tel objet et tous prier en parole, mais Dieu sait que souvent il ne le désire pas et peut-être voit-il les cœurs de quelques-uns qui résistent à la prière pendant qu'on prie. Nous devons nous accorder quant au mobile qui nous pousse à désirer l'objet. Il ne suffit pas que nos désirs pour obtenir un objet soient les mêmes, mais les raisons pour lesquelles nous le désirons doivent être les mêmes. Tel souhaite un réveil pour que Dieu soit glorifié et les pécheurs sauvés. Un autre membre de l'Église peut aussi désirer un réveil, mais pour que la congrégation augmente et que l'on subvienne davantage ou plus facilement aux dépenses que nécessite la propagation de l'Évangile. Un autre désire un réveil pour voir de nouveaux membres se joindre à l'Église et qu'elle devienne ainsi plus nombreuse et plus respectable. D'autres, enfin, souhaitent un réveil parce qu'on s'est opposé à eux et qu'on a dit du mal d'eux. Et ils aimeraient que, quoi qu'on puisse penser ou dire, que Dieu les bénisse. Parfois, les gens voudraient un réveil que par affection charnelle, afin de voir leurs amis convertis et sauvés. Si des personnes veulent s'unir dans la prière pour obtenir une bénédiction, elles doivent non seulement désirer la bénédiction et s'accorder dans leur désir, mais aussi s'accorder sur les motifs. Nous devons nous accorder et nous devons, bien entendu, désirer une bénédiction, et cela pour de bonnes raisons. Inspirés, surtout, par de bons mobiles. Donc, chers amis, on a bien compris, notre suprême ambition doit donc être d'honorer Dieu et de le glorifier. Avez-vous bien entendu? Notre suprême absolue ambition doit être d'honorer Dieu et le glorifier. Sinon, Dieu n'exaucera pas. C'est ainsi que des parents peuvent s'accorder à prier pour la conversion de leurs enfants et avoir les mêmes sentiments et les mêmes intentions. Et cependant, s'ils n'ont pas de mobile plus élevé que l'attachement à leurs enfants, leurs prières ne seront pas exaucées. Ils s'accordent sur le but, mais les raisons ne sont pas totalement désintéressées, surtout pas. Jamais les parents ne s'accorderont dans leurs prières pour la conversion de leurs enfants de manière à ce que leurs prières soient exaucées jusqu'à ce qu'ils aient senti, vraiment senti, que leurs enfants sont des quoi ? Des petits saints ? Non, sont des rebelles. Souvent, des parents prient ardemment pour leurs enfants parce qu'ils désirent que Dieu les sauve et ils seraient presque disposés à avoir des pensées dures à l'égard de Dieu s'ils ne sauvaient pas leurs enfants. Mais s'ils veulent être exaucés, il faut qu'ils arrivent à prendre le parti de Dieu contre leurs enfants, même si par suite de leur perversité et de leur incorrigible méchanceté, Dieu était forcé de les envoyer en enfer. Et oui, j'ai connu une femme qui était dans une grande anxiété quant au salut de son fils. Elle luttait avec angoisse dans la prière. Et néanmoins, son fils demeurait impénitent jusqu'à ce que, enfin, elle eut la conviction que ses prières et ses luttes n'avaient été que les aspirations ardentes de son sentiment maternel à elle, et non pas une vue claire et juste du caractère de son fils rebelle, pervers et obstiné contre Dieu. Quand elle a pris fortement parti, enfin, contre son fils, comme étant un rebelle qui mérite vraiment l'enfer. Alors là, voyez-vous, il y a eu un miracle. Il s'est converti. La raison de l'insuccès de ses prières était qu'auparavant, elle n'avait jamais eu des mobiles purs. J'ai dit purs. Elle aurait dû désirer le salut de son fils en ayant en vue, avant toute chose, la gloire, uniquement la gloire de Dieu. Si nous voulons être unis de manière à voir nos prières exaucées, nous devons nous accorder dans la foi, c'est-à-dire nous devons nous accorder dans l'attente de la bénédiction demandée. Nous devons comprendre la raison pour laquelle il faut l'attendre et voir la preuve, sur laquelle notre foi doit reposer, et ainsi croire absolument que la bénédiction viendra. Sinon, nous ne serons pas dans l'attitude que requiert la promesse. La foi est une des conditions indispensables de la prière efficace. Pour que la prière collective soit efficace, il faut qu'il y ait accord dans la foi. Nous devons encore nous accorder quant au moment où nous désirons que la bénédiction vienne. Si deux ou plusieurs personnes s'accordent à demander une bénédiction spéciale, que l'une d'elles la désire maintenant et que l'autre ne soit pas encore prête à la recevoir, il est donc clair qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas unies sur un point essentiel. Si la bénédiction doit venir en réponse à leur prière, et venir à un moment précis, si ceux qui prient ne s'accordent pas sur le moment où ils désirent la recevoir, il n'y aura pas de réponse à leur prière. Je vous conseille, chers amis, de réécouter quelques-unes de ces études, peut-être une deuxième fois, parce que c'est important d'en comprendre le sens et la profondeur. Supposez que la question se pose actuellement de savoir si vous êtes d'accord pour demander ici un réveil. Le désirez-vous tous et voudriez-vous tous le voir venir maintenant? Vous accorderiez-vous de tout votre cœur à vous humilier dans la poussière et à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit s'il devait descendre ce soir? Je ne demande pas ce que vous désirez. Si je vous adressais cette question, si je la posais vraiment devant vous, peut-être vous leveriez-vous tous et déclareriez que vous êtes d'accord pour avoir un réveil et pour l'avoir maintenant. Vous savez ce que vous deviez sentir et dire à ce sujet vous savez que vous devriez être prêt à demander un réveil pour maintenant. Mais je vous pose la question, Dieu verrait-il que dans votre cœur, il en est ainsi vraiment, et que vous êtes vraiment, vraiment d'accord? Est-ce qu'il y a en deux, peut-être qu'il y en a deux parmi vous, hein? Ça peut arriver qu'il y en a deux parmi vous qui se soient accordés sur ce point, alléluia, et qui aient prié en conséquence. Et s'il n'en est pas ainsi, quand vous accordez vous, donc, quand allez-vous vraiment vous accorder pour avoir un réveil? Si les membres de cette église ne peuvent s'accorder entre eux, comment pouvez-vous espérer un réveil? Je vous le demande. Il ne vous sert de rien de le dire que vous êtes d'accord, alors que Dieu, il lit très bien dans vos cœurs et voit que vous ne l'êtes pas vraiment. Voici la promesse, hein? Je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Or, ceci est vrai, hein? Ceci est vrai ou c'est faux? Voyez-vous, si cette affirmation est vraiment vraie, alors il est vrai que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne l'avez jamais été, sauf dans les cas où vous avez effectivement eu un réveil. Nous devons donc nous entendre, non seulement pour un moment quelconque, mais nous devons nous entendre pour le moment présent. Autrement, nous ne nous mettrons pas d'accord sur les points essentiels à l'œuvre. À moins de nous accorder pour avoir un réveil maintenant, nous ne nous accorderons pas non plus maintenant sur les moyens convenables pour l'obtenir. Or, le réveil ne peut venir que lorsque sont employés des moyens appropriés. S'accorder pour l'avenir est complètement inutile, car une fois ce moment arrivé, nous devrons alors nous entendre pour un moment qui sera devenu le présent, et nous devons donc agir en conséquence. Vous voyez donc que vous ne vous accorderez jamais de la bonne manière, à moins d'être d'accord que maintenant même est le moment favorable. Les chrétiens doivent donc s'accorder quant à l'importance des réveils. On n'obtient pas la bénédiction d'un réveil en réponse à des prières à moitié sérieuses. Il faut sentir l'importance infinie d'un réveil avant de pouvoir prier avec efficacité. Des bénédictions de cette sorte ne sont accordées que en réponse à des prières inspirées par le sentiment de l'importance de ce que on demande. Comme je l'ai dit en parlant de la prière efficace, il faut désirer la bénédiction avec une agonie inexprimable, et cela pour offrir la prière qui est infailliblement agréée de Dieu. Ceux qui ne sentent pas à ce point l'importance d'un réveil peuvent le demander en parole, mais ne l'obtiendront pas. Jamais une église unie dans la prière et convaincue de l'importance d'un réveil ne s'est vu trompé dans son attente, jamais. Une telle entente, si elle est sincère, garantit l'accord sur tous les autres points indispensables. Les chrétiens doivent encore s'accorder pour avoir des notions scripturaires et des notions correctes sur différentes choses qui ont rapport au réveil, telles que la nécessité d'une action divine pour obtenir un réveil. Il ne suffit pas que tous y croient en théorie et prient pour cela en parole. Ils doivent surtout comprendre et sentir cette nécessité, faire l'expérience d'une entière dépendance de l'Esprit de Dieu, sans quoi l'œuvre échouera. Il faut donc comprendre aussi pourquoi cette action divine est nécessaire. L'accord entre chrétiens sur ce point doit donc être basé sur des principes justes. S'ils ont des idées fausses, ils seront arrêtés dans leur marche. S'ils s'imaginent que la nécessité de cette influence divine, qu'elle vient de l'incapacité des pécheurs d'obéir, vraiment d'obéir, ou s'ils croient que Dieu est obligé de donner l'Esprit Saint pour rendre les pécheurs capables de se soumettre à l'Évangile, ils insultent Dieu et leurs prières ne prévaudront pas. Je devrais peut-être répéter, s'ils ont des idées fausses, eh bien ils seront arrêtés dans leur marche. S'ils, par exemple, ils s'imaginent que la nécessité de cette influence divine vient de l'incapacité des pécheurs d'obéir, ou s'ils croient que Dieu est obligé de donner l'Esprit Saint pour rendre les pécheurs capables de se soumettre à l'Évangile, ils insultent Dieu et leurs prières ne prévaudront pas, car dans ce cas-là, ils sont obligés de s'imaginer que la pure justice exigerait de Dieu qu'il répande son Esprit Saint avant de pouvoir demander aux chrétiens de travailler ou aux pécheurs de se repentir. Supposez qu'une église ait la pensée que les pécheurs sont de pauvres créatures. Oh, quels beaux pauvres amis, ces chrétiens-là, venant au monde avec une nature telle qu'ils ne peuvent s'empêcher de pécher, ils sont donc obligés et sont de ce fait incapables de se repentir et de croire à l'Évangile, comment peut-elle comprendre que le pécheur est un rebelle envers Dieu et qu'il mérite malheureusement l'enfer? Avez-vous bien compris? Comment peut-elle sentir qu'il mérite le blâme? Comment, dans ses prières, peut-elle prendre le parti de Dieu contre les pécheurs? Et si elle ne le fait pas, elle ne doit pas s'attendre à ce que Dieu ait égard à ses prières, car elle ne prie pas avec de bons mobiles. Donc, sans aucun doute, une des raisons principales pour lesquelles tant de prières demeurent sans réponse, c'est que ceux qui prient prennent le parti, avez-vous entendu, prennent le parti du pécheur contre Dieu. Ça a l'air de rien, mais c'est comme ça. Il prie pour le pécheur comme pour un être qui est malheureux, qui est digne de commisération. Et c'est comme ça que la plupart le font. Plutôt que de comprendre que c'est un misérable, un rebelle, qui mérite d'être puni. Eh bien, ça embouche un coin. La raison en est qu'il ne croit pas le pécheur capable d'obéir à Dieu. Si une personne ne croit pas que les pécheurs sont capables d'obéir à leur Créateur, et si elle croit réellement l'influence de l'Esprit Saint nécessaire pour les rendre capables, il lui est impossible d'adresser à Dieu la prière efficace pour le pécheur. Rien d'étonnant à ce que ceux qui ont des notions ne soient pas victorieux auprès de Dieu et qu'ils aient des doutes au sujet de l'efficacité de la prière de la foi. N'avez-vous pas souvent entendu prier pour les pécheurs de cette manière? Écoutez bien. Ô Seigneur, aide cette pauvre âme à faire ce que tu exiges d'elle. Rends-la capable de faire telle ou telle chose. Ce langage, il prouve qu'on se met du côté du pécheur, on se met du côté du pécheur contre Dieu. Avez-vous compris? Je ne verrai pas tant de mal à cette prière si ceux qui la prononcent y mettaient le sens qu'on y met quelquefois. Mais le fait est qu'ils veulent souvent dire par là, « Ô Seigneur, tu commandes à ces pauvres pécheurs de se repentir quand tu sais très bien qu'ils ne le peuvent pas, à moins que tu ne leur donnes ton Esprit Saint pour les en rendre capables. Quoique tu aies déclaré que s'ils ne le font pas, tu les enverras en enfer. Seigneur, cela paraît bien dur, très dur, de ta part. Et nous te prions donc d'avoir pitié de ces pauvres créatures et pour l'amour de Christ, de ne pas les traiter si épouvantablement. Eh bien, qui ne voit pas, chers amis, qui ne voit pas qu'une telle prière ou une prière semblable n'est qu'une injure à l'Éternel? Eh oui, on l'accuse d'une injustice inouïe s'il continue à imposer aux pécheurs le devoir qu'il ne saurait accomplir sans le secours que Dieu ne veut pas leur accorder. On pourrait prier de cette manière jusqu'au jour du jugement, sans jamais obtenir de bénédiction, parce que l'on prendrait ainsi fait et cause pour le pécheur contre Dieu. Je connais des personnes qui pensent que Dieu et son Fils bien-aimé Jésus-Christ doivent tout donner sans que eux fassent d'abord le nécessaire. Les chrétiens ne peuvent prier avec succès que lorsqu'ils ont compris que le pécheur est un rebelle, c'est un obstiné, et tellement obstiné que jamais, sans l'Esprit Saint, il ne fera ce qu'il pourrait pourtant faire sur le champ s'il le voulait. Et cette obstination est la seule raison pour laquelle il a besoin du Saint-Esprit pour sa conversion. Le seul point sur lequel le pécheur ait besoin de l'action divine, c'est pour surmonter son obstination et de lui donner la volonté de faire ce qu'il n'est pas dans l'état que Dieu requiert pour exaucer les prières que lorsque elles s'accordent à comprendre sa dépendance totale de Dieu, de façon, si l'on demande à Dieu de secourir le pécheur, au lieu de le prier d'accorder sa grâce au rebelle afin de l'amener à se soumettre, on est très loin de la vérité et on insulte Dieu et on ne sera pas exaucé. Les chrétiens doivent donc comprendre que les réveils ne sont pas des miracles, mais qu'ils sont le résultat de l'emploi de moyens appropriés. Il n'est pas étonnant qu'autrefois, les réveils aient été si rares et de si courte durée. On les regardait généralement comme des miracles ou comme une simple ondée qui tombe sur un endroit pendant un moment et puis qui cesse totalement, c'est-à-dire une chose sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Que peut-on faire pour avoir une ondée? Ou comment faire durer la pluie plus longtemps qu'elle ne tombe? Il est donc nécessaire que ceux qui prient comprennent qu'un réveil s'obtient par des moyens. Autrement, ils ne s'entendront jamais pour employer ces moyens. Ils doivent, en conséquence, s'accorder pour comprendre que l'action de l'homme est aussi indispensable à un réveil que celle de Dieu. J'ose dire que jamais un réveil n'a eu lieu sans l'action divine ni sans l'action humaine. Mais Dieu n'est pas l'esclave de l'homme. Que de fois n'entendez-vous pas dire « Dieu peut s'il le veut ». Il peut, s'il le veut, poursuivre l'œuvre sans l'emploi de quelque moyen que ce soit. Il peut tout faire et il fera tout. Restez donc dans votre fauteuil tout tranquille avec votre bonne conscience. Mais je n'en crois rien, moi, parce que rien ne le prouve. Qu'est-ce que la piété? C'est l'obéissance à la loi de Dieu. Mais la loi ne peut être observée que si elle est connue. Et comment Dieu peut-il faire obéir les pécheurs si ce n'est en faisant connaître ses commandements? Et comment le fera-t-il connaître si ce n'est en les révélant lui-même ou en les faisant annoncer par les hommes, c'est-à-dire en faisant porter et agir la vérité sur l'esprit d'une personne jusqu'à ce qu'elle obéisse. Jamais Dieu n'a converti et ne convertira un pécheur que par la vérité. Qu'est-ce que la conversion ? Qu'est-ce que la conversion? C'est l'obéissance à la vérité. Dieu peut communiquer directement la vérité au pécheur, mais même alors, l'action du pécheur est absolument indispensable, car la conversion consiste dans l'emploi de la volonté et des facultés du pécheur. Dieu emploie aussi d'ordinaire l'intervention d'autrui, des écrits, des conversations et de la prédication. Dieu a mis le trésor de l'Évangile dans des vases de terre. Il a jugé convenable d'employer les hommes à la prédication de la Sainte Parole. C'est-à-dire qu'il a vu que l'action de l'homme est le meilleur moyen pour sauver les pécheurs. Si jamais le contraire s'est vu, si jamais le contraire s'est vu, moi j'en ai aucune preuve. Il n'y a pas une âme sur 1000 ou même sur 1 million qui ait été convertie autrement que par la vérité. Par la vérité proclamée par l'homme, il est à tous égards nécessaire que les chrétiens soient unis dans la compréhension de la véritable raison pour laquelle des moyens sont employés et des vrais principes qui doivent les diriger dans l'emploi de ces moyens. Il est donc important qu'on s'accorde sur les mesures essentielles à employer pour favoriser un réveil. Les chrétiens pourraient s'accorder sur toute autre chose. Cependant, s'il y a parmi eux diversité d'opinions sur les mesures à prendre, ils arriveront à des malentendus et à se désavouer les uns les autres dans l'action. Jamais ils ne quitteront le rivage si voulant mettre à la voile. Ils ne peuvent pas s'entendre. Des commerçants qui ne s'accorderaient pas entre eux ne feraient que détruire leur ouvrage et contrecarrer les intérêts de leur entreprise. Ceci est vrai en ce qui concerne l'œuvre du réveil. Sans accord, les membres de l'Église neutraliseront mutuellement leur influence et ils n'auront jamais de réveil. Les chrétiens doivent donc s'accorder sur la manière de se conduire envers les pécheurs impénitents. Voilà un point d'une immense importance. Autrement, si l'un dit au pécheur une chose, l'autre une autre, alors quelle confusion! Il est évident qu'ils ne s'entendent pas quant aux choses à demander. L'un prie pour que les pécheurs qui sont présents se repentent. Un autre demande seulement qu'ils soient convaincus de péché, ou si ce chrétien est plein d'ardeur, il ira peut-être jusqu'à demander que les pécheurs soient profondément convaincus de péché. Un troisième priera pour que les pécheurs retournent chez eux, silencieux, méditant la vérité qu'ils ont entendue. Un autre montrera sa crainte d'aller voir se convertir immédiatement. Un autre encore demandera qu'il n'essaye pas de faire la moindre chose par leur propre force, et ainsi de suite. L'esprit qui n'est pas une quant aux choses qu'elle demande, n'a point de part à la promesse. Si vous chargez ces chrétiens de parler aux pécheurs, il est bien clair qu'ils ne s'accordent pas et qu'ils n'ont pas de vue claire sur ce qu'un pécheur doit faire pour être sauvé ou sur ce qui doit lui être dit pour qu'il se repente. La conséquence en est que les pécheurs anxieux ne savent que faire et abandonnent peut-être absolument tout dans un moment de désespoir, ou conclut qu'il n'y a rien de rationnel, ni de logique, dans la piété. L'un dira aux pécheurs qu'ils doivent se repentir immédiatement. Un autre leur remettra un livre de piété et leur conseillera de le lire. Un autre leur dira de prier, de persévérer, et qu'ensuite, au temps marqué de Dieu, ils obtiendront peut-être la bénédiction. Jamais un réveil ne durera si peu que ce soit au milieu de toutes ces divergences. S'il commence, il croulera bientôt, à moins toutefois, que le corps de l'Église ne se tienne tranquille et n'en laisse d'autres accomplir l'œuvre à eux tout seuls. Mais malheur, le réveil souffrira matériellement du manque de coopération. Une Église devrait donc être unie. Tous devraient avoir le même langage et pas chacun le sien, et donner les mêmes directions. Alors le pécheur, ne voyant personne prendre son parti, parce que souvent on prend le parti du pécheur, et le pécheur, voyant que personne prend vraiment son parti, il n'aura de repos et de soulagement que lorsque il sera repenti. Par l'exercice de la discipline, s'il se trouve dans l'Église des membres indignes, eh bien, malheureusement, que vous le croyez ou pas, l'Église devrait être unanime à les retrancher. Sinon, le déshonneur qu'ils jetteront sur la piété suffira pour empêcher. Pour empêcher quoi? Une bénédiction? Non, pour empêcher un réveil. Il arrive qu'en essayant de renvoyer de telles personnes, on va créer de la division et que l'œuvre s'en trouve arrêtée. Parfois, ces membres coupables sont des personnes très influentes, ou bien elles ont dans leur famille des amis qui prendront fait et cause pour elles et formeront ainsi un parti. Ils créeront un mauvais esprit et feront obstacle au réveil. Par des confessions mutuelles, toutes les fois qu'on a offensé quelqu'un, on doit le confesser pleinement. Je n'entends pas par là une confession froide et forcée, comme quand on dit « Voyez-vous, si j'ai mal fait, eh bien je le regrette. » J'entends une confession qui vient du plus profond de notre cœur, qui embrasse la faute dans toute son étendue et montre que la réparation vient d'un cœur contrit. Par le pardon accordé aux ennemis, un grand empêchement au réveil réside dans le fait que des individus actifs placés à la tête de l'œuvre nourrissent des pensées de rancune et de haine envers ceux qui les ont offensés, pensées qui détruisent leur spiritualité et les rendent durs et désagréables et les privent de la communion de Dieu dans la prière et ainsi aussi de sa bénédiction sur tous ses travaux. Que les membres de l'Église s'accordent donc véritablement pour confesser leurs fautes et qu'ils nourrissent à l'égard de ceux qui les ont offensés un esprit de pardon, un esprit de miséricorde, d'assurance, semblable, c'est-à-dire un esprit de miséricorde, je voudrais dire semblable à celui du Christ, voilà. Essayons d'imiter Jésus-Christ. Alors, l'Esprit Saint leur sera donné sans aucune mesure. Leur sera vraiment déversé pleinement. Nous voyons aussi qu'on a généralement donné à ce texte de Saint Matthieu chapitre 18 verset 19 une signification différente de celle qu'il a réellement. Voyez-vous, d'abord, on l'a mal lu. On l'a lu comme s'il y avait ceci. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela se fera. Alléluia. Comme des chrétiens se sont souvent accordés pour demander telle ou telle grâce, et que cette grâce ne venait pas en réponse à leur demande, ils se sont dit, ce texte ne peut pas être pris littéralement, car nous l'avons mis à l'épreuve et nous savons qu'il n'est pas vrai du tout. Que de réunions de prières n'avons-nous pas tenues? Que de requêtes n'avons-nous pas fait monter à Dieu, dans lesquelles nous nous entendions parfaitement à demander des bénédictions et néanmoins, elles n'ont pas été accordées. Or, le fait est que jamais ils n'ont bien compris ce que c'est que de s'accorder quant aux choses à demander. Je suis convaincu que mon interprétation n'est pas exagérée. C'est le sens évident, vrai, que pourra trouver tout homme pieux qui examine ce texte et en cherche sincèrement la véritable portée. Il faut donc s'accorder non seulement dans l'action de demander, mais encore dans tout ce qui est indispensable à l'existence de la chose demandée. Je suppose que deux d'entre vous s'accordent pour aller ensemble à Londres ou à Paris. Jamais vous n'y parviendrez si vous n'êtes pas d'accord sur la route à suivre et quant aux moyens pour y aller. Il en est exactement de même lorsque vous demandez un réveil. Vous devez être pleinement d'accord sur le moyen, sur les circonstances et tout ce qui est essentiel à l'existence et au progrès d'un réveil. Dans ce fait, souvent constaté, il semble y avoir un enchaînement tout à fait logique. Les diverses classes de chrétiens éprouvent naturellement de la sympathie pour ceux du même sexe, du même âge et du même rang social que eux. Naturellement aussi, ils prient davantage pour eux, ils parlent plus avec eux et ils exercent sur eux une influence plus grande que sur les autres. Voilà ce que les chrétiens devraient comprendre et où ils devraient sentir leur responsabilité. Une raison spéciale pour laquelle il y a quelquefois peu de personnes de haut rang converties dans les réveils, c'est que ceux de leur classe qui se trouvent au nombre des membres de l'Église sont eux-mêmes si mondains qu'on ne saurait les réveiller. Généralement, le réveil prévaudra dans les familles qui comptent des chrétiens réveillés, tandis que les impénitents appartenant aux familles où il y a des chrétiens sans aucune vie seront enclins à demeurer tels qu'ils sont. Une des principales raisons est évidemment celle-ci. Lorsqu'il y a dans une famille ou dans son voisinage des chrétiens réveillés, il ne se fait pas alors des prières uniquement en faveur des pécheurs qui sont au milieu d'eux, mais ces chrétiens exercent également des influences correspondantes sur ceux qui les entourent. Aussitôt que quelques personnes sont réveillées, leur regard, leur vie, leur avertissement, tout tendra à convertir leurs amis. Mais si les chrétiens eux-mêmes dorment, toute leur influence tend à empêcher de telles conversations dans leur entourage, plutôt de telles conversions, excusez-moi, dans leur entourage. Donc, leur froideur, elle contriste l'Esprit Saint, et leur mondanité contredit l'Évangile, et toutes les relations qu'ils ont avec leurs amis sont en faveur de l'impiété et tendent à la perpétuer. Nous voyons donc comment, sous le gouvernement de la providence de Dieu, il est arrivé que différentes dénominations ont surgi au sein de l'Église. Souvent les chrétiens déplorent les maux nés dans l'Église de Dieu parce que son peuple s'est divisé en sectes discordantes et s'étonne de la patience avec laquelle Dieu supporte un tel état de choses. Mais la lumière, ou si vous voulez, à la lumière des principes que nous venons de poser, et considérant la diversité de sentiments et d'opinions qui existent actuellement dans l'Église, eh bien nous voyons résulter de cette division parfois beaucoup de bien. Et vu cette diversité d'opinions, un grand nombre de chrétiens ne pourraient pas s'accorder au point de travailler et de prier ensemble avec succès. Il est donc bien préférable qu'ils se mettent à part et laissent ceux qui s'accordent de s'unir entre eux. Dans tous les cas où il ne peut y avoir union cordiale dans le travail, et aussi longtemps que les différences subsistent, il vaut parfois mieux que chaque dénomination travaille de son côté. J'ai vu souvent des réveils s'éteindre à cause des efforts, des grands efforts qu'on faisait pour unir dans la prière et dans le travail des chrétiens totalement différents de différentes dénominations, tandis qu'ils ne s'accordaient ni sur les principes, ni sur les mesures à employer pour favoriser le réveil. Alors ils détruisaient réciproquement ce qu'ils faisaient, plongeait donc ainsi les âmes anxieuses dans la perplexité et donnait aux ennemis de Dieu une occasion de blasphémer. Bientôt, leurs sentiments s'aigrissaient et l'Esprit Saint contristé se retirant, l'œuvre s'arrêtait pour faire place à des controverses et à des désordres très pénibles. Nous voyons donc pourquoi Dieu permet quelquefois que les églises soient divisées. C'est tout simplement parce qu'il sait que leurs membres sont d'opinions si différentes qu'ils ne veulent pas prier et travailler en commun d'une façon efficace. Des parties demeureront quelquefois ensemble uniquement pour des considérations purement mondaines ou politiques, pour n'avoir pas toutes les charges de leur culte. Ainsi, ces églises marchent des années durant, pleines d'envie et de querelles, et n'accomplissent que fort peu de choses ou rien du tout pour le salut des pécheurs. Alors Dieu permet souvent, il permet des difficultés qui occasionnent une rupture ouverte et chaque partie travaille ensuite de son côté et peut-être avec beaucoup de succès. Et aussitôt après la séparation, tout va s'arranger. J'ai connu des cas où deux parties se constituaient en deux églises et n'ont pas tardé à voir éclater chez eux des véritables réveils. Il est manifeste qu'il y a encore beaucoup plus d'églises qui ont besoin de se subdiviser ainsi. Combien qui restent unis ne font aucun bien pour la seule raison que leurs membres ne s'accordent absolument pas. Leurs pensées ne sont pas les mêmes au sujet des réveils, et tant qu'il en est ainsi, elles ne pourront jamais travailler ensemble. À moins qu'il ne s'opère en elles un changement de vue et de sentiment qui puisse les unir, elles ne seront qu'un obstacle l'une à l'autre et ainsi aussi à l'œuvre de Dieu. Souvent les chrétiens restent néanmoins ensemble, consciencieusement, craignant que leur division ne jette de l'opprobre sur la piété, tandis qu'en réalité, elle n'en fait qu'une comédie et un déshonneur. Or, il vaudrait mieux se quitter amicalement, comme Abraham et Lot. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse chapitre 13, verset 9. Alors, ils pourront de part et d'autre être bénis dans leurs travaux. Nous voyons maintenant comment un petit nombre d'individus parfaitement unis peut, avec succès, former une nouvelle église et faire mieux qu'un nombre considérable de chrétiens qui ne s'accordent pas. Si je devais grouper des croyants pour fonder une église dans cette ville, j'aimerais mieux n'avoir que 5 personnes, ou même que 3, qui s'entendent sur tout ce qu'elles demandent, et dans leur manière d'agir, et dans tout ce qui est essentiel à la prospérité d'une église, qui me soutiennent et qui se soutiennent l'une l'autre, que de commencer avec carrément 200 membres qui ne s'accordent absolument pas. Quand les pasteurs mettront de côté leurs préjugés, leur interprétation personnelle et leur jalousie, et quand les églises comprendront la Sainte Bible et leur devoir de la même façon, quand elles prieront avec les mêmes mobiles, quand elles s'accorderont que quant aux choses à demander, alors une nation naîtra en un jour, qu'elle ne soit qu'un cœur, et s'accorde sur ce qui doit être fait pour le salut du monde, et le règne de Dieu viendra, croyez-moi, sans tarder. Chers amis, il est important que l'Église soit instruite de ce qu'il y a à faire au cours d'un réveil. Les membres doivent être formés et doivent être disciplinés un peu comme des soldats, chacun ayant une place à remplir, quelque chose à faire, sachant ce qu'il a à faire et comment le faire. Au lieu de cela, combien de fois ne voyons-nous pas des églises, dans un temps de réveil, se mettre à l'œuvre comme une troupe d'enfants qui voudraient construire une maison. Combien peu s'entendent réellement à faire quoi? La chose pour laquelle Dieu laisse les chrétiens dans ce monde, la seule chose en vue de laquelle il les retient ici-bas et pour laquelle Dieu retarde leur entrée au ciel, et c'est là la chose entre toutes que les chrétiens n'étudient pas et ne s'efforcent pas de réellement comprendre. Chaque église est à juste titre responsable des âmes qui se trouvent dans son sein. Si Dieu a donné la promesse, s'il est vrai que là où deux s'accordent quant aux choses qu'ils demandent, il leur sera fait selon leurs désirs, et si les pécheurs se perdent, l'Église devra en répondre devant Dieu. Et maintenant, croyez-vous être d'accord dans le sens de la promesse que nous avons méditée? Je sais que là où un petit nombre de personnes s'accordent, elles peuvent obtenir des résultats. Cependant, l'ensemble de l'Église n'étant pas d'accord, il y aura toujours tant d'influences contraires à celles du petit nombre que ces quelques-uns n'accompliront pas grand-chose. Il faut donc que l'Église soit d'accord. Oh, si nous pouvions trouver ne fût-ce qu'une Église qui le fût complètement et de tout cœur sur tous les points que j'ai mentionnés, en sorte qu'elle travaille et prie comme un seul homme, quel bien n'en résulterait-il pas? Oh, que pensent donc les chrétiens? Comment peuvent-ils rester tranquilles quand Dieu a placé ses bénédictions tellement à leur portée que si deux d'entre eux seulement s'accordaient quant aux choses à demander, cela leur serait donné? Hélas, hélas, combien sera amer le souvenir de ces discordes et de ces querelles dans l'Église quand les chrétiens verront la multitude d'âmes qui sont perdues et qui auront été précipitées en enfer parce que nous n'étions pas d'accord pour prier et pour travailler en faveur de leur salut. Finalement, à la lumière de cette promesse, nous voyons la culpabilité effrayante de l'Église. Dieu a donné cette promesse comme précieux héritage à ses enfants que, en tout temps et en tout lieu, si les siens s'accordent, leurs prières seront exaucées. Nous voyons là la terrible faute des membres de cette Église qui entendent mes discours sur le réveil ou sur les réveils, et puis ils s'en vont et n'ont pas de réveil, et aussi la culpabilité d'autres églises qui entendent ces études et qui refusent totalement de faire leur devoir. Comment pourrez-vous vous trouver à la barre du tribunal de Dieu face à face avec ces milliers de pécheurs inconvertis qui vous entoureront et de les voir tomber dans les flammes éternelles? Vous êtes-vous accordé de cœur pour prier pour eux, je vous le demande? Pourquoi, ayant cette promesse, n'avez-vous pas prié jusqu'à la victoire? Chers amis, avant de terminer par la prière, il y a une multitude de pécheurs qui sont sur le chemin de l'enfer. Eh oui. Et néanmoins, cette promesse bénie est négligée. Bien plus, elle est en fait méprisée par l'Église. Cependant, elle est là. Elle est là, l'expérience passée de l'Église en témoigne. Elle en témoigne. L'Église pourrait, elle pourrait en profiter pour sauver un nombre considérable de pécheurs. Mais, si elle n'est pas d'accord, les hommes périront. À qui la responsabilité? Qui peut saisir cette promesse et regarder en face les perdus au jour du jugement? Posons-nous tous cette question. Et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, terminer par la prière. Avant, je voudrais vous dire les paroles, on a encore le temps, d'un vieux cantique. Voici les paroles. Je suivrai Jésus-Christ de ta divine grâce. Accorde-moi, grand Dieu, le secours efficace. Soutiens mon faible cœur, enflamme mon esprit. Enseigne-moi, Seigneur, à suivre Jésus-Christ. Je suivrai Jésus-Christ avec persévérance. Il m'acquit par son sang, il couvre mon offense. Des suites du péché, le Sauveur me guérit. C'est en lui qu'est ma paix. Je suivrai Jésus-Christ. Prions. Ô notre Sauveur, qui nous a laissé un exemple, et ceci afin que nous fassions comme tu nous as fait, donne-nous d'être parés d'humilité et de charité. Toi, qui étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être l'égal à Dieu, et qui pour nous sauver, tu t'es anéanti toi-même en prenant la forme de serviteur, t'étant abaissé, tu t'es abaissé et tu as rendu obéissant, tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort. Mets donc en nous, ô Seigneur, les mêmes sentiments qui étaient en toi. Oui, remplis-nous d'humilité et de charité, afin que nous apprenions à regarder les autres comme plus excellents que nous-mêmes, afin que nous ne reculions devant aucun sacrifice, aucun renoncement, pour faire partager à d'autres les grâces que nous avons reçues de toi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus que celui qui l'a envoyé. Sauveur doux et débonnaire, que notre sainte et glorieuse ambition soit d'être tes disciples, et tes serviteurs. Enseigne-nous à nous aimer les uns les autres, selon ton commandement, afin que le monde soit contraint de reconnaître en nous tes enfants. Glorifie-toi ainsi dans tous ceux qui se réclament de toi, et fais qu'ils soient réellement un pour travailler à ta gloire et pour publier les vertus de celui qui nous a aimés et qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Exauce-nous pour l'amour de ton Saint-Nom. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et donc, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de ces études. À bientôt donc, que le Seigneur vous bénisse, car il aime tous ceux qui lui appartiennent, qui ont accepté sa main tendue pour être sauvés. À demain matin, au revoir.